Oudrive donne la parole aux acteurs de la société qui nous livrent à leur manière conseils et avis d'initiés. Outtalk, c'est la discussion French Cloud.
Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 4 de notre programme podcast Outtalk. Aujourd'hui, notre invité est Mathieu Plane, directeur adjoint au département analyse et prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Bonjour Mathieu et bienvenue.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Nous continuons à traverser cette crise sanitaire, Mathieu, sans précédent. L'heure est déjà, pour autant, à un bilan intermédiaire sur la santé des entreprises et leur capacité ou non à avoir traversé cette première période de confinement. Mesurer les impacts, les changements à court et moyen terme, mais aussi envisager les perspectives positives qu'offre cette situation, qui nous oblige à repenser le rapport au travail, l'organisation même du travail et potentiellement le paysage économique français. Alors, sans rentrer dans les détails dès à présent, vous êtes Mathieu Plane aux premières loges à l'OFCE pour parler de ces sujets, n'est-ce pas ?
Oui, on est effectivement assez bien placé pour en parler, étant donné la crise dans laquelle on est plongé et l'incertitude qu'elle peut créer, notamment sur la situation économique et les mesures de politique économique pour répondre à cette crise. On voit qu'on est dans une crise inédite. Effectivement, les politiques publiques aussi doivent s'adapter à cette crise inédite. Et donc, pour pouvoir mettre en place un certain nombre de politiques économiques, il faut déjà avoir un diagnostic qui soit à peu près établi sur la situation. Or, aujourd'hui, on a quand même des indicateurs qui sont très différents de tout ce qu'on a pu connaître par le passé.
Est-ce que vous avez une vision aujourd'hui de l'état de la situation économique française ? Donc, on parlait de cette crise sanitaire, on parlait du dynamisme de certains secteurs, on a évoqué le fait que certaines entreprises se sont rapidement adaptées. Ça a été difficile pour d'autres. On en est où aujourd'hui ?
Alors, il y a plusieurs points. Il y a le diagnostic de ce qui s'est produit déjà, qui est effectivement une chute du PIB d'activité qui est historique. C'est-à-dire, on a perdu en un semestre près de 20% de notre activité. Pour donner des ordres de grandeur, sur l'ensemble de l'année 2009, qui était la crise la plus sévère que l'économie française ait connue depuis l'après-guerre, qui est la crise liée à la crise financière, Lehman Brothers, on a perdu 3%. Donc là, on a perdu 20%, donc ça vous montre l'intensité. En revanche, on observe un rebond assez net. Ça, c'est plutôt le point rassurant. C'est qu'on voit, notamment à partir du déconfinement, un rebond notamment de la consommation, qui a été assez fort, plus fort que ce qu'on pouvait éventuellement anticiper. Il y a un autre point, c'est qu'on voit qu'une épargne importante des ménages s'est accumulée. On a plus de 60 milliards d'épargne accumulée liée justement à la contrainte sur la consommation. C'est-à-dire que le revenu des ménages s'est pas effondré. La consommation a beaucoup baissé, donc il y a une épargne accumulée. Donc ça, c'est un support de rebond aussi pour l'avenir, parce qu'effectivement, s'il y a des capacités financières du côté des ménages, ça peut être intéressant pour le rebond à venir. Et puis, il y a un plan de relance quand même qui est ambitieux, qui est de 100 milliards, qui va permettre de dynamiser notamment la reprise attendue pour 2021. Donc, il y a des conséquences qui vont être quand même très fortes, parce qu'on est face à un choc qui est inédit. Mais il y a les points positifs, c'est que d'une part, il y a cette épargne dont je vous parle, et puis le fait que l'État, les banques, l'État français, mais aussi les autres États de partenaires européens, mais aussi les banques centrales, ont fait beaucoup pour éviter qu'il y ait vraiment un effondrement de l'économie. Et donc pour le moment, tout ça est quand même assez contenu, même si on peut pas évacuer le fait qu'il y a des risques de faillite assez élevés, qu'on voit le chômage quand même beaucoup augmenter, et que il faut quand même aussi le dire, notre spécialisation sectorielle nous avantage pas. C'est-à-dire, comme je vous disais, c'est qu'il y a un choc qui est sectoriel, qui est lié notamment au tourisme. Oui. On a plutôt un point d'attractivité fort, et l'aéronautique et notre fleuron industriel. Or, il se trouve que ces deux secteurs sont quand même touchés en plein cœur par cette crise Covid. Donc, ça veut dire aussi que d'autres secteurs doivent émerger pour pouvoir récupérer des pertes d'activité qu'on va avoir par ailleurs. Et donc, on pense plutôt à la santé, au numérique, ou des secteurs qui ont plus d'avenir de ce côté-là.
Oudrive fait partie des entreprises du secteur numérique. J'allais vous poser une question directe. Diriez-vous que ce secteur a été quelque peu épargné par la crise ?
Oui, clairement. Clairement, il y a un certain nombre de secteurs qui ont tiré leur épingle du jeu. Il y a plutôt l'agroalimentaire, par exemple. On le voit, bien sûr, le secteur de la santé, de la pharmacie.
L'agroalimentaire, c'est durable pour vous ?
Durable, c'est-à-dire qu'on voit que c'est un bien de première nécessité et qu'effectivement, du coup, pendant la crise, ça a été quelque chose qui a permis, qui était un point central dans la continuité de vie. Hein. Effectivement, l'alimentation et la...
On vient à l'essentiel.
À l'essentiel, voilà, le logement, l'alimentation et la santé. L'éducation aussi arrive aussi assez vite derrière. Mais ce sont des points importants. Et l'agroalimentaire, il y a tout un enjeu aujourd'hui sur la souveraineté alimentaire, avec la question des relocalisations. On l'a vu, hein, justement, sur les chaînes de production et les risques sur les chaînes de production, des problèmes d'approvisionnement. Donc, l'agroalimentaire reste un point important. La question de la santé, bah, bien sûr, est centrale. Hein, on le voit, et notamment tout l'enjeu sur l'industrie pharmaceutique et la production qui pourrait être relocalisée. Et troisième point, qui est un point important, c'est le numérique. Et effectivement, là aussi, la souveraineté numérique,
hein, exactement,
qui est un point important sur la sécurité des données, notamment. Et donc, ça, c'est des secteurs qui se sont plutôt bien maintenus pendant la crise. On voit bien sûr le numérique est permis la continuité d'activité de beaucoup d'entreprises. Et justement, on a plutôt une accélération de la digitalisation du numérique dans beaucoup de secteurs, avec des enjeux de politique publique importants qui sont autour de la couverture du territoire, avec l'accès justement à des bonnes connexions. Donc il y a tout l'enjeu sur le développement de la fibre optique sur tous les territoires, si on veut un accès à peu près égal. Et puis il y a tout l'enjeu autour, qui a un grand débat aujourd'hui, sur la 5G.
Le télétravail n'était jusqu'à présent pas du tout vu comme un dispositif de continuité d'activité, mais plutôt comme une commodité, un aspect, on va dire, un petit peu culturel, une forme d'attractivité pour certaines entreprises. Aujourd'hui, c'est devenu un maillon essentiel de la chaîne, quand c'est possible, bien entendu, de la chaîne de continuité d'activité. Donc, pour toute entreprise qui souhaite pouvoir continuer à exercer son activité à minima critique, elle doit être dotée de ce type d'outils. Donc, pour vous, c'est un changement pérenne et un changement profond dans les entreprises qui est en train de s'opérer ?
Je crois que oui. On fera le bilan un peu plus tard, mais oui, je crois que oui. D'abord, d'une part, parce que cette crise n'est pas un épiphénomène. Il y a eu d'abord le confinement, hein, qui a quand même créé vraiment des façons de fonctionner totalement différentes. Et puis, on voit qu'elle s'inscrit quand même dans la durée. D'ailleurs, quand on voit ce que déclare le directeur de l'OMS, qui dit qu'il faut s'attendre à plusieurs vagues, il faut savoir qu'il y a un comité vaccin qui a été mis en place par l'Élysée. La présidente de ce comité vaccin a bien dit, de toute façon, dans le meilleur des cas, si on a un vaccin à la mi-2021, ça serait déjà quelque chose de très positif. Et après, il faut vacciner toute la population. Donc ce que je veux dire, c'est que de toute façon, on va avoir une crise économique, enfin en tout cas sanitaire, dans laquelle effectivement l'épidémie va pas être réglée du jour au lendemain. Une fois que vous êtes passé sur une nouvelle façon de travailler et qu'il y a une organisation managériale autour de ça, il y aura forcément des conséquences et un bilan à tirer de tout ça, et voir quel est l'intérêt collectif justement de passer à ces nouveaux modes de fonctionnement et de travail.
Dans une perspective où on s'est dit que le télétravail se généralise, est-ce que vous voyez, en tant qu'économiste, se poindre en fait la possibilité d'avoir des personnes qui partent vivre dans une... Enfin, en tout cas, en province, pour le coup, et non plus seulement en banlieue parisienne, pour avoir plus d'espace, en se disant qu'elles viendront peut-être une journée par semaine au bureau. On voit d'ailleurs fleurir un peu partout des publicités sur certaines villes qui proposent une attractivité... qui se disent être la ville numéro un du télétravail parce qu'elles ont les équipements, vous en parliez aussi tout à l'heure. Donc est-ce qu'on voit ce phénomène ? Est-ce qu'à votre avis, c'est juste un épiphénomène en ce moment, ou est-ce que vous imaginez que des salariés eux-mêmes d'entreprises auront cette envie d'aller bouger ?
Ce qui est quand même intéressant sur les statistiques, c'est que le télétravail régulier concernait 3% des salariés. Avec l'occasionnel, on montait à 7%. Durant le moment du confinement, on est monté presque à 30% des salariés concernés. Alors avec beaucoup d'inégalités hein, derrière ça, c'est un enjeu aussi assez fort. C'est-à-dire que on voit que c'est beaucoup des professions de cadres. 85% des cadres peuvent télétravailler. Certaines professions intermédiaires, mais par exemple un ouvrier, très peu d'ouvriers peuvent télétravailler, voire zéro. Et effectivement, ce sera pas la même chose aussi quand vous travaillez dans la banque, la finance, l'assurance, l'informatique, le numérique. Il y a beaucoup de télétravail. En revanche, quand vous êtes dans l'industrie ou le BTP, enfin certaines parties industrielles, ça va être beaucoup plus compliqué. On le voit chez PSA, le télétravail a basculé pour un certain nombre de cadres qui sont justement qui ont la possibilité de travailler. Par contre, tous les sites où il y a de la production, on ne peut pas télétravailler.
Avec pourtant une communication assez forte de PSA sur,
bien sûr,
sur le fait de basculer en télétravail.
18 000 personnes, hein. Ouais. Ça concerne 18 000 personnes qui passent à 4 jours par semaine, je crois. Et je crois qu'il y a 400 sites du coup qui sont repensés. Donc on voit que c'est pas rien. Hein. Et donc oui, il y a cet effet-là qui va être quand même important. Et puis il y a deux choses, c'est l'organisation, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise a intérêt à basculer là-dessus ? C'est-à-dire est-ce qu'il y a gisement de productivité, coût des locaux, même peut-être arbitrage, je dirais presque modération salariale versus possibilité de télétravailler, parce que ça fait partie des conditions de travail.
Bien sûr.
Et donc l'attractivité de, on va dire, de au potentiel ou de personnes en tout cas bien qualifiées peuvent être demandées peut-être dans leur contrat, surtout du télétravail, en contrepartie pas forcément de salaire mirobolant. Donc je pense que ça, c'est un atout aussi pour être attractif. Et donc cet ensemble va créer quand même une réflexion. Et puis oui, dernier point aussi qui est quand même très important, c'est le phénomène sociétal. C'est-à-dire que beaucoup de salariés demandent aussi à avoir des modes d'organisation de vie qui peuvent être différents entre vie privée et vie professionnelle, et avoir justement un peu plus de souplesse et de liberté, y compris sur leur installation géographique. Et donc ça pose la question effectivement de savoir, est-ce que on doit forcément habiter dans l'endroit où on va travailler, ou au contraire on peut justement trouver des nouveaux modes d'organisation, ce qui est aussi un enjeu intéressant pour les territoires.
Plein de perspectives, effectivement. Et puis, on parlait de la possibilité pour les salariés de partir, d'envisager une vie en province pour avoir une qualité de vie peut-être supérieure. On peut imaginer des choix aussi radicaux pour les entreprises. On pense évidemment à des entreprises qui se créent, à des start-up, qui peuvent être attirées par des bassins aussi intéressants, qui peuvent aller en Creuse, je ne sais pas. En tout cas, s'éloigner aussi. Aujourd'hui, c'est une opportunité pour elles également d'aller, vous parliez de redynamiser les territoires, c'est possible pour les entreprises aussi de prendre ces choix radicaux et de se dire « je ne m'installe pas du tout en région parisienne ».
Tout à fait. Je dirais d'autant plus effectivement les PME assez innovantes, les start-up, qui, justement, peuvent passer très vite sur ces outils numériques, ou déjà qu'ils les maîtrisent, effectivement. Et dans cette crise-là, on voit bien, quand même, les pertes économiques sont importantes. On les a chiffrées pour les entreprises, déjà depuis le début de la crise, à plus de 50 milliards. Malgré les dispositifs d'activité partielle, le fonds de compensation qui a été mis en place pour les PME, donc ça veut dire qu'il reste des coûts fixes importants. Et donc, c'est certain nombre d'entreprises vont se retrouver à faire des choix assez vite, à la fois leur continuité d'activité, mais aussi sur des coûts financiers. C'est-à-dire, on choisit, et si on doit réduire quelque chose, qu'est-ce qu'on réduit? Est-ce qu'on réduit la masse salariale? Est-ce que, et là, c'est le risque, effectivement, de destruction d'emplois, de licenciement? Ou est-ce qu'effectivement, on essaye d'arbitrer sur des coûts fixes, sachant qu'on peut avoir des possibilités de fonctionner autrement? Donc ça, c'est quand même un point important. Et puis, pour les nouvelles entreprises qui vont s'installer, effectivement, là, pour le coup, il y aura un intérêt assez fort, sachant que les bassins d'emploi s'élargissent. À partir du moment où vous avez accès à un télétravail ou la possibilité de travailler à distance, vous n'êtes pas obligé juste de recruter dans le bassin d'emploi qui est proche de votre lieu d'installation. Donc ça donne des perspectives aussi beaucoup plus larges, y compris pour des personnes qui étaient loin des grandes agglomérations, mais qui avaient effectivement des qualifications qui auraient pu être intéressantes aux entreprises. Mais du coup, ça recrée une nouvelle mobilité.
Peut-être votre point de vue justement sur ce plan de relance. Quelle est votre opinion en tant qu'économiste, à votre avis? Est-ce que le curseur a été mis au bon endroit? Quelle est votre vision?
Alors, il y a plusieurs points. C'est-à-dire que le plan de relance, alors c'est 100 milliards qui vont être à peu près injectés. C'est donc historique, c'est pareil. C'est inédit. C'est quand même des sommes qui sont très importantes. Un peu plus de 30 milliards devraient émerger pour 2021. Et après, on est autour de 40 milliards pour 2022 et des investissements un peu plus de long terme, par exemple sur le plan hydrogène, sur la suite. Les points intéressants, c'est qu'ils visent à une vraie transformation économique ou accompagner la transformation économique, notamment sur un certain nombre d'investissements. On le voit autour de l'investissement dans la transition écologique, qui est un point assez fondamental, et sur notamment la rénovation thermique des bâtiments, les nouvelles mobilités. Et ça, c'est un point important, et notamment avec tout ce qui va être autour des infrastructures ferroviaires, le plan aussi automobile qui facilite l'achat de véhicules qui sont moins polluants. Donc ça, c'est des points importants. Alors, il y a un plan vélo aussi pour les grandes villes. Donc, on voit qu'il y a quand même une transformation derrière tout ça. Il y a aussi un plan d'investissement aussi de long terme sur tout ce qui est politique d'innovation et dont le numérique fait partie.
Merci pour cette analyse. On peut peut-être revenir peut-être sur le principe de souveraineté numérique, qui est peut-être pas forcément compris par tous, mais en tout cas, l'idée, c'est donc d'avoir des acteurs référents, qui soient des acteurs européens, qui permettent effectivement d'avoir la main, on va dire, sur les données critiques des entreprises. C'est bien votre vision, c'est le sens de cette souveraineté numérique.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on voit que on voit le développement très fort du numérique depuis un certain nombre d'années. Les enjeux autour des données et la sécurité des données. Des données sensibles pour les entreprises, pour les administrations, des données personnelles. Donc il y a beaucoup de choses. Et donc on voit aussi avec le développement du télétravail, on voit que le télétravail peut aussi bien fonctionner s'il est sécurisé. Ouais. C'est-à-dire que si vous pouvez faire des réunions à distance mais qui peuvent pas être espionnés typiquement, ou voilà, il faut quand même, sur dans beaucoup de boîtes industrielles, voilà, il y a quand même des enjeux qui peuvent être forts, et donc garantir la sécurité de ces données-là ou de l'information, de la transmission de l'information, c'est essentiel. Et pour les États aussi, c'est la gestion de ce qu'on appelle l'État stratège, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on considère comme stratégique pour le monde de demain, et la sécurité, la cybersécurité, l'indépendance numérique sont des enjeux très importants, et l'Europe à la taille critique pour mener justement ce combat. Je pense que, bien sûr, on peut le faire au niveau français, mais on peut pas le faire seul. Hein.
Évidemment.
Et que du coup, voilà, c'est des plans de réflexion importants. D'ailleurs, dans le plan de relance, qui est un plan de relance aussi européen, il y a un volet numérique qui est important. Et donc ça, c'est un point nouveau. Et donc, il y a 390 milliards qui ont été quand même... 750 milliards, hein, pour être honnête avec les prêts, mais c'est 390 milliards de vraies subventions nouvelles, avec trois points, je dirais. C'est effectivement transition écologique, formation et notamment la question de l'emploi des jeunes, et puis aussi tout ce qui est infrastructure et transition numérique qui sont des points importants. Donc ça, c'est les axes forts de l'Europe.